Lorsqu'on parle de l'épopée de Gilgamesh, on pense habituellement au texte qui nous est connu grâce aux très nombreux manuscrits du premier millénaire et qui ont été retrouvés majoritairement dans les bibliothèques d'Assyrie, à Ninive, à Shur, Kalkhou, ou plus à l'ouest à Sultantep, mais aussi en Babylonie, à Babylone et Uruk, lorsqu'on peut en déterminer l'origine. Cette épopée a trouvé au cours de sa longue histoire rédactionnelle une forme canonique que nous appelons parfois aussi Gilgamesh standard en décalquant l'anglais ou l'allemand. Pour elle et les versions antérieures, nous disposons aujourd'hui de l'édition critique de Andrew George et suite à ce remarquable travail de fond, de nombreuses traductions en langue anglaise ou allemande ont paru. Mais malheureusement, la version française de Jean Bottereau est désormais dépassée et ne tient pas compte des nombreuses avancées dans l'établissement du texte. Avant d'arriver dans sa version finale, de nombreux textes témoignent du fait que la figure de Gilgamesh focalisait sur elle l'attention du monde des scribes, mais certainement aussi d'un auditoire plus large, et cela depuis le troisième millénaire. 5 versions sumériennes sont actuellement connues. L'œuvre a été composée en langue akkadienne au deuxième millénaire et des témoignages écrits se trouvent sur de nombreux sites de tout le Proche-Orient. On en a même adapté des passages en hittite ou ourite. Mais malgré la prolifération des versions et manuscrits, le chemin parcouru avant de prendre sa forme finale reste difficile à déterminer. Et même après l'établissement de l'épopée sous sa forme canonique, des variantes continuent à exister. Il est généralement admis que la personne qui a été à l'origine de la rédaction de l'épopée canonique nous est connue nominalement. Cet homme apparaît tardivement dans une sorte de catalogue trouvé à Ninive qui énumère des auteurs de différentes œuvres littéraires, parmi lesquels on trouve la mention de la série de Gilgamesh, de la bouche de Sin, Leke ou Nini. Le métier de Sin, Leke ou Nini a été interprété de différentes manières. William George Lambert, le supposé exorciste, élisait Lou de Mache, mais puisque à l'époque néo-babylonienne et jusqu'à l'ère séleucide, une dynastie des lamentateurs Kalou d'Uruk prétendait être des descendants de cet homme, et qu'ils étaient tous lamentateurs et aucun exorciste, la restauration Lou de Ushku, donc lamentateur, avait été proposée par Paul-Alain Beaulieu, mais cette interprétation est refutée pour des raisons épigraphique. Le fait que de nombreux autres auteurs de ce même catalogue étaient par ailleurs également exorcistes rend cette proposition initiale de Lambert plausible. Néanmoins, si nous connaissons le nom de l'auteur, l'ère à laquelle cet homme, poète ou compilateur, aurait vécu reste inconnu. Le nom Sin, Leke ou Nini est déjà attesté à l'époque paléo-babylonienne, mais les attestations connues ne permettent pas d'établir un lien qui dépasse la simple homonymie. Les sources anciennes ne nous aident pas dans cette quête d'une date, car la seule indication chronologique vient d'une chronique d'Uruk d'époque séleucide qui dit « À l'époque de Gilgamesh, mais c'est cassé comme vous voyez, à l'époque de Gilgamesh, le roi, Sin, Leke ou Nini était savant. » Et le même texte donne d'autres datations fantaisistes pour d'autres savants bien connus et ne peut donc pas être retenu comme argument qu'une figure historique de Sin, Leke ou Nini n'aurait jamais existé. Selon Andrew George, et il est loin d'être seul, Sin, Leke ou Nini est donc la rédaction de l'épopée canonique, doit être située vers la fin du deuxième millénaire au XIIe ou XIe siècle, car à cette époque, d'autres textes, séries de textes ont également été compilés. Avant de revenir sur la question de la rédaction du texte, jetons un regard sur l'état actuel de nos connaissances. L'épopée canonique comporte plus de 3000 vers et se répartit sur 11 voire 12 tablettes de longueur inégale. Toutefois, l'état de conservation de l'œuvre demeure, malgré les avancées et parutions assez régulières de nouveaux fragments, peu satisfaisant. Seulement 40% des vers sont entièrement conservés. Presque 30% manquent encore totalement, et cela met les comparaisons des différentes étapes de la rédaction, la présence ou absence de motifs ou topos, pour l'instant encore sur des mauvaises bases. Le contenu de l'épopée canonique peut être résumé très succinctement. La première tablette présente la muraille d'Uruk et introduit les personnages. Gilgamesh est un roi tyrannique. Pour l'affronter, Enkidu est créé. La prostituée Shamkhatoum, après avoir civilisé Enkidu, lui demande de l'accompagner à Uruk. Ils y arrivent dans la deuxième tablette et finalement, Enkidu et Gilgamesh deviennent amis. La troisième tablette contient la décision d'aller vers la forêt de cèdres pour attaquer Humbaba et la quatrième, la longue route vers la forêt de cèdres. Gilgamesh a des rêves menaçants, mais Enkidu les explique de manière positive et annonce que la lutte contre Humbaba se terminera par la victoire. La rencontre avec Humbaba et la mise à mort du monstre figurent dans la cinquième tablette. En mourant, Humbaba maudit Enkidu. Les deux héros coupent des cèdres pour faire une porte du temple d'Enlil et descendent l'Euphrate sur ce radeau. Retourné à Uruk dans la sixième tablette, Gilgamesh repousse les avances d'Ishtar, qui, ébloui par sa beauté, veut l'épouser. Vexé d'être repoussé, elle demande à Anu, le taureau céleste, afin qu'il dévaste Uruk. Mais Enkidu et Gilgamesh le tuent et le sacrifient au dieu Shamash. À partir de cette nuit, Enkidu a un rêve prémonitoire de sa fin et il meurt dans la septième tablette. Le deuil de Gilgamesh et l'enterrement d'Enkidu occupent la huitième tablette et dans la neuvième, Gilgamesh part pour son voyage au bout du monde pour chercher la vie éternelle auprès du seul homme qu'il a obtenu, le héros avant, survivant du déluge. Et dans la dixième tablette, Gilgamesh rencontre Siduri. Il traverse les eaux de la mort et arrive chez Utnapishtim et sa femme, et à la fin, il y arrive à la fin de la dixième tablette. Dans la onzième, Utnapishtim raconte le déluge. Gilgamesh est mis à l'épreuve et ne doit pas dormir pendant 7 jours et nuits, mais il échoue, et malgré cela, Utnapishtim lui révèle où se trouve l'herbe de vie. Gilgamesh l'obtient, mais lors de son chemin de retour, le serpent le mange. Gilgamesh retourne à Uruk. Il trouve sa gloire éternelle dans les constructions, la muraille d'Uruk et grâce à l'épopée qui y est déposée. La douzième tablette est un ajout qui raconte une visite de Gilgamesh dans les enfers. De langue moins élégante, il s'agit d'une traduction d'un des textes sumériens en akkadien. Son contenu se rattache mal à l'ensemble et les raisons d'avoir ajouté cette douzième tablette restent obscures. Voilà l'œuvre canonique dont la compilation finale a été attribuée, comme nous l'avons vu, à Sin, Leke ou Nini. Même si des éléments précis pour étayer cette hypothèse manquent, elle est généralement admise. Andrew George la présente de manière très claire comme une impression subjective lorsqu'il écrit concernant Sin, Leke ou Nini. I suggest that he was responsible for prefacing the pion to the hero's glory that opens the old Babylonian epic Shutur Elisharé with a more reflective prologue, Shanak by Imuru, and for adding at the epic's end the closing lines that reprise that prologue. Donc, le nouveau intitulé et l'introduction de la muraille d'Uruk comme plus grand achèvement de Gilgamesh, avec lequel l'épopée débute et termine à la 11e tablette, serait dû à l'intervention de Sin, Leke ou Nini. Une autre intervention est de transférer le conseil de Siduri, connu par un manuscrit paléo-babylonien, dans la bouche d'Utnapishtim. Et par ailleurs, il aurait formé le passage concernant le déluge. Plus problématique me semble être la proposition que ça aurait été lui qui aurait ajouté la 12e tablette à l'épopée. Car cette hypothèse met à mal la construction très savante qui débute et terminerait avec les murailles d'Uruk. Et Andrew George termine son appréciation en disant The poem was recast in Sin Leke Unini's hand as a somber meditation on the doom of man. The poem became a vehicle for more than entertainment. Grâce à cette transformation, donc, Gilgamesh devenait une méditation plus profonde sur la condition humaine et, avec cela, de la littérature sapientiale. Je n'ai pas de scoop à livrer aujourd'hui. Je ne connais pas la date, ni l'époque de vie, ni l'apport véritable de Sin Leke Unini. Mais ce qui est désormais clair est que le incipit canonique de l'épopée Shanakpa Imuru est déjà attesté à Ugarit sur une copie scolaire retrouvée dans la maison d'Urtenu, mais que le texte d'Ugarit n'est pas encore la version canonique. De ce fait, il faut dissocier deux choses. L'intitulé Shanakpa Imuru du compilateur Sin Leke Unini ou la version canonique de Sin Leke Unini. Ou bien, troisième hypothèse, il faut supposer qu'à Ugarit, on n'était pas au courant de toutes les transformations que l'épopée aurait subies avant les années 1190, date de la destruction d'Ugarit. Je pense qu'il est impossible de donner une réponse définitive au rôle personnel de Sin Leke Unini dans la création de l'épopée aujourd'hui. Ce que j'aimerais regarder du coup est l'état du récit de Gilgamesh à l'époque paléo-babylonienne, quelques siècles avant la version d'Ugarit, et de regarder quelle proximité thématique liait la narration de cette époque avec le cycle canonique attesté 1000 ans plus tard. L'époque paléo-babylonienne est connue pour avoir été un moment de forte créativité littéraire, et nous savons que de nombreux passages ont trouvé leur chemin du texte concernant Gilgamesh ont trouvé leur chemin dans la version canonique, comme par exemple l'incipit Shutur Elishari, le plus éminent des rois désignant Gilgamesh, qui se retrouve dans la version canonique à la 29e ligne de la première tablette. La documentation paléo-babylonienne elle-même est bien plus éparse que celle du premier millénaire. Nous disposons, en tout et pour tout, de 11 manuscrits. Prenons comme fil conducteur l'ordre de la narration telle qu'elle est connue à l'époque récente. Aucun manuscrit paléo-babylonien ne nous livre le début du texte. Gilgamesh P est rédigé sur 6 colonnes accompagnées d'un colophon. Selon ce dernier, il s'agit de la deuxième tablette de la série intitulée Shutur Elishari. Le texte raconte les rêves de Gilgamesh annonçant l'arrivée de Enkidu, l'entrée de Enkidu et Shamkhatuma-Uruk, et le combat entre Enkidu et Gilgamesh dans la porte de la maison où devait avoir lieu un mariage à laquelle Gilgamesh voulait s'inviter abusivement. Le combat se terminera par l'amitié entre les deux hommes et on remarquera que le contenu de cette deuxième tablette paléo-babylonienne correspond pas mal à la deuxième tablette de l'épopée canonique qui est de surcroît très mal conservée. Gilgamesh Yael, comme il est appelé, a également 6 colonnes. Cette tablette raconte le désir de Gilgamesh de s'attaquer à Humbaba et de se faire une renommée malgré les avertissements de tout le monde contre ce projet. Un passage élaboré énumère l'armement extraordinaire des héros. Cette tablette contient la suite du récit de Gilgamesh P et forme donc la troisième tablette, même si on n'a pas de colophon. Elle correspond par ailleurs aussi à la troisième tablette du texte canonique plus tardif. Pour résumer, à l'époque paléo-babylonienne, nous avons 2 manuscrits bien établis appartenant à une série qui, dans sa structure et l'agencement de sa narration, anticipe ce qui deviendra un texte canonique plus tard. L'incipit paléo-babylonien Shutur Elishari correspond au 29e vers de l'épopée canonique Shanakpa Imuru et on suppose que tout le passage suivant est transposé directement de la version paléo-babylonienne. Les 2 textes sont attribués au même scribe et présentent le même layout, une origine à l'arsaï avancé, mais certains éléments de grammaire sont plutôt tardifs, donc ça reste à vérifier. Par ailleurs, un tout petit texte de la collection Shoyen ressemble à la fin de ce qui est dans l'épopée canonique Gilgamesh, tablette 2. Un petit fragment de Nippur est trop fragmentaire pour être placé. Plus impressionnant est cette tablette à une seule colonne, narrant la route des héros pour affronter Hubaba et les rêves de Gilgamesh. Une des haltes se fait à l'approche du pays des Blas. Les parallèles peuvent être établis avec la quatrième tablette canonique. Un autre extrait de Nippur concerne les rêves de Gilgamesh, correspondant donc également à la quatrième tablette de Gilgamesh canonique. Et de même, ce texte de Shatupum. Tandis qu'un autre texte de ce site raconte l'attaque de Humbaba, ce qui correspond dans la version canonique à la tablette 5. De Nereptum vient aussi cet extrait avec la mise à mort du monstre. Et un autre texte contient le projet de ramener les cèdres à Uruk pour fabriquer une porte pour Enlil. Tous les textes que nous avons vus se relatent donc aux éléments qui se retrouvent sur les 5 premières tablettes de l'épopée canonique, et la plupart se concentrent à l'aventure de combattre le gardien de la forêt de cèdres, Humbaba. Un dernier texte paléo-babylonien fait exception. Il s'agit d'une tablette à 4 colonnes qui fait état des errances de Gilgamesh, de son arrivée chez la cabaretière Siduri. Cet épisode se retrouve plus tard, mais fortement transformé, dans la 10e tablette de l'épopée standard ou canonique. Si nous comparons ces éléments du récit paléo-babylonien avec ce que nous savons de l'épopée canonique, nous voyons en rouge les passages qui trouvent leur pendant aux deux époques. Ce que nous n'avons pas pour l'instant est l'épisode où Gilgamesh refuse les avances de Ishtar, ni la mise à mort du taureau céleste, ni la mort d'Enkidu et son enterrement, ainsi que l'extrême fin de l'épopée narrant la rencontre avec Utnapishtim et le déluge. La question se pose: si ces éléments manquants faisaient déjà partie à l'époque paléo-babylonienne, donc partie d'un véritable cycle de récits de Gilgamesh. Plus précisément, la question se pose si Shutur et Lishari seraient déjà à l'époque paléo-babylonienne une réelle épopée d'un assez grand nombre de tablettes, donc une épopée longue, bien agencée, qui a été élaborée, transformée par section, mais pas dans son ensemble. Et dans ce cas, la figure de Sinleki Onini, auteur de l'épopée, pourrait bien sûr aussi dater de l'époque paléo-babylonienne. Mais ça, ce n'est pas du tout ce que je veux qui m'intéresse. Il est sûr que la plupart des éléments manquants étaient connus de l'auditoire à l'époque. Nous en avons la preuve, car les récits en langue sumérienne racontent la mort d'Enkidu et l'affaire du taureau céleste, et le monde des scribes les connaissait donc. Mais est-ce que ces narrations sumériennes circulaient aussi dans la langue parlée l'acadien? Les textes manquent et le passage de l'oral à l'écrit est difficile à évoluer. Or, je pense qu'il y a un moyen de prouver que le cycle des aventures de Gilgamesh était bien ancré dans la culture générale de l'époque et jouissait d'une grande popularité. Il faut regarder pour cela la documentation iconographique qui, en ce qui concerne Gilgamesh, est d'une richesse étonnante. Un volume des OBO rassemble les études sur ce sujet en général, mais je veux me limiter à la documentation paléo-babylonienne. Prenons Humbaba. Sa tête est reproduite à de très nombreuses reprises et se trouvait partout. Elle ornait les entrées des temples et sa laideur était censée chasser les mauvais démons. Avec la tête, manifestement visible à de nombreux endroits, circulait le savoir autour de l'exploit de Gilgamesh et peut-être même le poème. Et nous avons vu à quel point cet épisode est bien représenté par la documentation écrite contemporaine. Vous voyez par ailleurs, à droite, une petite statuette trouvée à Eshnouna et qui montre Gilgamesh triomphant se tenir au-dessus de la tête de Humbaba. Et cette plaquette montre de manière très dynamique la mise à mort de Humbaba, que Gilgamesh frappe et qu'Enkidu retient par les cheveux. Or, cette plaquette est un moulage, donc une œuvre d'art peu onéreuse, dont probablement de nombreuses copies ont circulé. Et voici un fragment d'une autre composition analogue. Mais ce n'est pas tout. Un long passage de Shutur et Lishari concernait l'armement extraordinaire que les deux héros devaient amener avec eux dans l'expédition contre Humbaba. Et voici une représentation par moulage sur une plaquette d'argile. Et il y en avait toute une série bien étudiée par Ursula Seidel dans le volume mentionné. Il montre en haut Gilgamesh entouré de ses armes. Au-dessous de lui, Enkidu, entouré de lions. Ils se tiennent au-dessus des montagnes stylisées. Aux côtés des divinités, apportant de l'eau, sans doute une allusion au creusement de puits et libations que les textes relatent à répétition. Et des têtes de Humbaba. Tous ces éléments rappellent des éléments du texte comme des aides-mémoires. Le cycle de Humbaba était manifestement le plus populaire à l'époque palibabylonienne et cela peut se déduire des textes et des images. Mais d'autres épisodes sont également évoqués par les œuvres d'art de cette époque. Par exemple, la lutte entre les deux amis devant la porte d'une maison est narrée par le texte Gilgamesh P. La scène était représentée par des sauts cylindres comme celui-ci de Syrie. La porte était flanquée de génies ailés et l'identification avec le cycle de Gilgamesh fait peu de doutes malgré l'état illusoire. Pour l'instant, nous avons vu des illustrations pour des passages connus également par les textes. Mais qu'en est-il des autres thèmes connus plus tard par la version canonique mais pour lesquels nous n'avons pas de manuscrits? Ils existent. Voici une jolie plaquette qui montre comment Gilgamesh et Enkidu tuent le taureau céleste. Les gestes de la main et des pieds rendent l'identification absolument sûre. Et d'autres éléments prouvent que tous les éléments du récit étaient déjà réunis dans un cycle à l'époque paléo-babylonienne. Un sceau du British Museum montre, encore une fois, comment des éléments mnémotechniques de scènes, comme des éléments mnémotechniques des scènes de l'épopée. La mise à mort de Humbaba. Gilgamesh et Ishtar à droite pourraient rappeler l'épisode où Gilgamesh refuse les avances d'Ishtar selon la sixième tablette de l'épopée canonique. Ce passage n'est pas encore attesté avant le premier millénaire. Mais on voit Gilgamesh bien paré et dans une position peu dévote face à la déesse. Le canin entre les deux pourrait alors être un loup et un rappel d'un des malheureux amants d'Ishtar, un berger, qu'Ishtar avait transformé en loup et qui du coup était exclu de la communauté de pasteurs, épisode que nous connaissons bien dans le long discours de Gilgamesh qui refuse les avances d'Ishtar. La femme nue pourrait être Shamkhatum, mais je penche plutôt vers la cabaretière Siduri, car Enkidu n'est pas représenté sur ce sceau. Et le couple d'hommes scorpions, qui sont les gardiens du bout du monde, fait allusion aux errances de Gilgamesh en quête de vie. Dans l'épopée standard, c'est le début de la neuvième tablette. Manque la rencontre avec Utnapishtim. Mais la mouche doit être prise comme une allusion au récit de déluge, allusion bien connue des habitants de la Mésopotamie. Et si cette interprétation est juste, le sceau ferait allusion à un cycle de Gilgamesh qui, déjà à l'époque paléo-babylonienne, aurait réuni tous les éléments qui nous sont connus dans la version canonique. D'autres sceaux paléo-babyloniens sont plus allusifs concernant les exploits de Gilgamesh, comme celui-ci qui montre des combats, ou pour les spécialistes de Mari plus intéressants, comme ce sceau de Samia, général de Samsi-Adu et d'Ishmedagan, c'est le sceau de qui pullule des scènes de combat contre le taureau céleste à droite, mais peut-être aussi au centre, et des éléments à des allusions à la mort de Humbaba, comme illustré par les deux têtes. J'imagine que les gens qui regardaient ce sceau comprenaient les scènes. Et cela veut dire qu'au XVIIIe siècle, le savoir autour de Gilgamesh était bien diffusé dans l'ensemble du Proche-Orient, en basse et en haute Mésopotamie, et assurément aussi en Syrie. Pour terminer, nous avons vu que la recherche s'est souvent focalisée sur l'épopée devenue canonique et sur une personne supposée rédacteur final au nom de Sin-Leke-Unini. L'incipit nouveau donné à l'épopée était prise pour une touche apportée par ce rédacteur final. Mais nous avons vu que les textes d'Ugarit contredisent cette version de fait. L'incipit y est Shanakpa Imuro, mais la version n'est pas encore celle canonique. Tout le monde s'accorde à dire que l'épopée de Gilgamesh doit beaucoup à sa première version paléo-babylonienne. Je pense que les témoignages écrits ne sont pas suffisantes pour montrer à quel point l'œuvre ressemblait déjà à son descendant canonisé. C'est l'iconographie témoin d'un monde oral qui pourrait le prouver. Je vous remercie de votre attention.